Catherine Dutu, bonjour.
Bonjour Guillaume, bonjour à toutes et à tous.
La bataille judiciaire n'en finit plus aux États-Unis sur la frontière avec le Mexique.
Signe de la tension politique à 8 mois de l'élection présidentielle, autour donc de l'immigration clandestine, l'un des points de discorde majeur entre les démocrates et les républicains, souligne le site Politico et la chaîne télévisée CNN. Alors je vous avoue qu'en arrivant cette nuit à la radio, les choses étaient claires. La Cour suprême avait levé la suspension de cette loi controversée du Texas qui criminalise l'entrée illégale sur le sol de cet état frontalier du Mexique. C'était à la une, notamment du New York Times, l'entrée en vigueur de la loi du gouverneur républicain texan Greg Abbott, fervent trumpiste, qui avait ordonné en décembre aux autorités de son état le pouvoir d'arrêter les migrants et de les expulser vers le Mexique sans autre forme de procès. L'administration Biden estime que cette loi est inhumaine et qu'elle empiète en plus sur les prérogatives des autorités fédérales, rappelle le Washington Post. Mais c'est là que le ping-pong judiciaire s'accélère. Accrochez-vous, Guillaume. Un juge avait temporairement bloqué cette loi texane le mois dernier, estimant qu'elle était probablement inconstitutionnelle, relève le Washington Post. Mais une cour d'appel du 5e circuit, basée à la Nouvelle-Orléans, avait suspendu cette décision sans explication. La loi pouvait alors être appliquée. L'administration Biden, le comté d'El Paso et les groupes de défense des immigrés ont alors demandé à la Cour suprême de maintenir le blocage de la loi texane, le temps d'aller au bout de tout le parcours judiciaire. Et la Cour suprême est donc revenue sur cette suspension hier. La décision semble avoir été prise à 6 contre 3, explique une spécialiste du droit à la télévision publique américaine PBS. 6 juges conservateurs contre 3 juges progressistes. La majorité a décidé de ne pas suspendre la loi comme le demandait la Maison-Blanche, afin de donner le temps à une cour d'appel de finir l'examen du texte. En clair, la loi texane pouvait entrer en vigueur. Inquiétude chez les migrants à la frontière avec le Mexique, qui regardaient passer les voitures de police avec crainte, note le New York Times. Colère aussi du côté du gouvernement mexicain, indique El País et la BBC. Pas question d'accepter les migrants expulsés du Texas. Mais coup de théâtre. Quelques heures plus tard, peu avant minuit, 6 heures, heure de Paris, une cour d'appel a rendu de manière inattendue une ordonnance bloquant de fait l'application de la loi du Texas, indique le Houston Chronicle, journal texan. La question qui se pose est donc de savoir quel tribunal sera compétent pour savoir si la loi texane peut être ou non appliquée. Le cinquième circuit, cette cour d'appel de la Nouvelle-Orléans, se réunit aujourd'hui, mais le Washington Post n'a aucune idée de ce qui pourrait en sortir. Pour l'instant donc, la loi texane contre les migrants est bloquée. Et pour CNN, cette incertitude alimente le débat acharné sur l'immigration instrumentalisée par le candidat Trump, alors que le camp républicain a refusé au Congrès de durcir les textes migratoires. Cette bataille politique et judiciaire sur la frontière avec le Mexique jette un autre éclairage sur la présidentielle de novembre prochain. La Cour suprême, sa composition, son poids sur les lois aux États-Unis, sur l'immigration, mais aussi sur l'avortement, on l'a vu ces dernières années, sont autant d'enjeux pour tout le pays. Alors que Donald Trump demande à la Cour suprême, qu'il a façonnée sous sa présidence, rappelle le New York Times, Donald Trump lui demande une immunité absolue.
Et à présent, Catherine, quelques mots de la Russie après la réélection, si l'on peut dire, du président Vladimir Poutine.
Avec des résultats jamais vus depuis la chute de l'URSS. 87% des voix pour celui qui est au pouvoir depuis près d'un quart de siècle. Pression sur les millions de fonctionnaires et les entreprises proches de l'État, souligne le média russophone indépendant Medusa, qui révèle que les responsables du Kremlin ont aussi demandé aux gouvernements régionaux russes de garantir un soutien d'au moins 80% à Vladimir Poutine. Mais le journal d'opposition Novaya Gazeta Europe affirme que 22 millions de votes ont été falsifiés. Alors, c'est un peu moins qu'une première estimation à 31 millions de bulletins frauduleux, soit la moitié des votes en Russie. Novaya Gazeta Europe se fonde sur la participation dans chaque bureau de vote. Le décompte des voix en temps réel avec la répartition par candidat. Conclusion sans appel pour Novaya Gazeta. Bourrage d'urne et réécriture des protocoles finaux avec un écart de voix qui augmente brusquement en faveur de Vladimir Poutine à la fin du dépouillement, tout comme la participation. La fraude électorale, une tradition russe, prévenait déjà vendredi notre correspondant à Moscou, Sylvain Tronchet, et l'association Golos qui surveille les élections en Russie.
Et on termine, Catherine, avec la Finlande. Alors, les Finlandais sont les gens les plus heureux du monde, c'est ça?
Oui, c'est ce qui ressort pour la 7e année consécutive. D'ailleurs, source d'orgueil pour le journal finlandais Ilta Sanomat, titre décerné par un rapport parrainé par l'ONU qui vient donc d'être publié aujourd'hui. Il se fonde sur l'auto-évaluation de 100 000 personnes interrogées dans 143 pays. Résultat pondéré aussi par des universitaires qui prennent en compte d'autres facteurs comme les revenus, la santé, la liberté, un faible taux de corruption au sein de l'Oxford Wellbeing Research Center, comme le précise le journal finlandais Iltalehti, pour qui le bonheur des Finlandais est influencé entre autres par un lien étroit avec la nature et un équilibre entre travail et temps libre. Et puis le Wall Street Journal et le Time Magazine s'inquiètent de voir les États-Unis sortir pour la première fois du top 20 des pays les plus heureux au monde. Les États-Unis se classent à la 23e place. Les jeunes constituent la tranche d'âge la moins heureuse dans ce pays à cause de la montée de la solitude dans un pays polarisé, effet négatif aussi des réseaux sociaux, rapporte le quotidien finlandais Helsingin Sanomat. L'Afghanistan et le Liban arrivent à la fin de ce classement. L'Argentine à la 48e place sur 143 pays. Et c'est un bilan plus large que propose la presse argentine ce matin, alors que le président ultralibéral Javier Milei vient de passer 100 jours au pouvoir, retracé notamment par le quotidien argentin Perfil. Et ce n'est même pas un bilan que proposent ces journaux, mais plutôt un réquisitoire contre le président d'extrême droite. C'est un taliban de l'équilibre budgétaire, écrit El País. S'il veut réduire les dépenses publiques, les retraités en paient le prix avec une réduction de leurs pensions. Les prix des médicaments et les assurances santé privées ont eux explosé. Le président raillé aussi pour son hyperactivité sur les réseaux sociaux. Bref, pauvreté croissante, tension politique, résume CNN. Et pour le journal argentin El Periodico, une vieille chanson de 1967 résume la situation en Argentine.
Es honra de los hombres proteger lo que crece, cuidar que no haya infancia dispersa por las calles.
C'est l'honneur des hommes de protéger ce qui grandit, de veiller à ce qu'il n'y ait pas d'enfants éparpillés dans les rues, chantait Mercedes Sosa en 1967, en mettant une étoile à la place de la faim. Sinon c'est inutile, c'est absurde de parler et reparler de joie, de chant sur terre, cela ne sert à rien s'il y a un enfant dans la rue.
Porque de nada vale si hay un niño en la calle.